Vous écoutez Gravel, pas dans le retour. Véro, Audrey et Nathan qui sont avec vous jusqu'à 18h. On vous accompagne même quand vous êtes poignés dans la circulation, puis peut-être que dans certains secteurs, on souhaite que ce soit évitable. Fait qu'on va où? On va pas où, Audrey?
On évite peut-être la capitale si c'est possible.
C'est impossible.
Sinon, ben, on pense à vous autres. Hein? On est là. On est là du moins jusqu'à 18h. Capitale, direction Est en ce moment, entre Henri IV et Laurentienne. Assez difficile de circuler. Ouest, ça va bien. Si vous êtes à l'entrée du pont Pierre-Laporte, direction Sud, à partir de chemin Sainte-Foy, ça commence à ralentir jusqu'à l'entrée des ponts. Si vous êtes sur la rive Sud, la 20 direction Ouest, entre Chemin des Îles et Taniata, c'est au ralenti. Il y a Guillaume Couture aussi où c'est difficile à l'approche du pont de Québec. C'est pas mal les endroits où c'est compliqué pour le moment. Là, il y a Wilfrid Hamel aussi à la hauteur de Duplessis où il y a un léger ralentissement. Pour le reste, ça roule, évidemment, quoi que ce soit d'autre. 88-971-102 par texto.
Dernière mise à jour, pardon, météo. On a un 18 degrés à Québec aujourd'hui. Donc, le soleil qui a fait son apparition un petit peu plus tôt. Demain, ça devrait ressembler à ça avec un 17 degrés. C'est mercredi où on risque d'atteindre 26 plein soleil. Fait que le kit que vous aviez préparé pour la journée où il va faire beau, c'est mercredi qu'on le sort alors que le lendemain, ça sent nuage, mais quand même un confortable 25 degrés. Si vous pensiez que c'était le début des beaux jours, ça n'arrivera point. Par la suite, ça se rafraîchit un peu, mais on se voit surtout de la pluie pour la fin de semaine.
Mon One Piece avec des ananas?
Oui.
C'est mercredi?
Oui.
Parfait, j'ai hâte.
Tu l'as préparé? Drôle, oui. Ça vient de nous voir.
Hein? Oh, non, mais c'est ce qui est très unique. Je voudrais faire porter ça à mon chum, il voudrait jamais.
Tu voudrais pas?
Jamais.
Ah, laisse-moi passer une soirée avec, tu vas voir.
Je vais le convaincre.
À
il
fin
est pas
de la
cher.
Soirée, ben regarde. Je vais lui donner le mien à la fin de la soirée.
Oh, ben
c'est
là.
Sûr qu'il y fait.
Oh, ben là.
Ah. Hey, il est notre chroniqueur automobile, mais il se transformera brièvement en chroniqueur voyage dans les prochaines minutes. Sam Tremblay-Michaud est avec nous autres en studio. Samuel, ça va bien?
Oui, ça va, merci.
Je veux que tu te transformes en conseiller voyage parce que tu nous parlais pendant la pause de la destination voyage, la vacance que tu as visité avec ta blonde et votre enfant.
Oui.
Où est-ce que tu es allé?
À Terre-Neuve et Labrador.
OK, les photos, ça a l'air magnifique quand tu fouilles de ce côté-là, mais pourquoi Terre-Neuve-Labrador?
Écoute, c'est un bon vieux coup de tête, mais on avait envie de faire un voyage d'aventure. Moi, j'ai un petit bonhomme de 4 ans, fait qu'on s'est dit que ça serait le fun de partir avec et de pas juste faire un tout inclus. Mm-hmm. On l'a déjà fait dans le passé. Et là, on cherchait à s'amuser, voir des choses, découvrir. Et on s'est dit que ça serait le fun de se dépayser un peu quand même, mais sans prendre trop de risques. T'sais, je ne l'ai pas me ramasser en Alaska, pas
quand
quelque
même 4
part.
Ans, là,
ouais, c'est ça. Voir un peu comment ça va aller avec mon petit bonhomme. Et j'ai fait quelques recherches, puis je suis tombé sur des magnifiques photos de Terre-Neuve. Puis je me suis dit, moi, j'ai voyagé. J'ai quand même le Canada. J'ai fait un gros road trip quand j'étais jeune. Je me suis rendu jusqu'au Yukon en hiver. J'ai fait les Maritimes, mais j'avais jamais fait Terre-Neuve.
Tu l'as vu, ton pays, là.
Oui, mais j'avais pas fait Terre-Neuve. Je me suis dit, l'essayer voir de quoi ça a l'air. Ma blonde était super partante. Puis qu'on était là en avion parce que c'est 30 heures de voiture si on part de Québec.
C'est un beau gros, donc, un beau gros road trip.
Oui, c'est quand même un bon gros road trip. Il y a un bateau de 7 heures à prendre aussi pour se rendre.
Avec du gars, c'est moyen.
Oui, non, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, on va y aller en avion. Puis ça a été vraiment un voyage extraordinaire. On a loué une voiture sur place. J'ai fait 7 jours. On a visité plein de choses. On a fait beaucoup de marches. On a vu des icebergs. On a vu 8 gros, gigantesques icebergs à côté de notre Airbnb qu'on avait loué. On a vu les petits macareux, les petits puffins, les petits oiseaux des gros becs mignons. Fait qu'on est allé faire des tours sur l'eau. L'eau est claire, bleue, le bleu clair comme dans les Caraïbes. C'est juste qu'elle est glaciale, fait qu'on se baigne pas. Mais il a fait super beau. Les gens de Terre-Neuve mangent, par contre, tout est frit, là. Fait que tout le poisson est frit, tout est frit tout le temps.
Ça, c'est fou. Je suis allée dans un restaurant à Toronto qui s'appelle, comment il s'appelle? C'est le Clam Bar, je pense. Puis tout était effectivement frit. C'était super bon, là.
Oui, mais une fois de temps en temps. 7 jours de temps, là, j'ai cuisiné pas mal vers la fin.
C'était des spécialités de Terre-Neuve quand je suis allée dans ce resto-là.
Fais-moi pourquoi, mais je trouvais pas aucun fruit de mer. Beaucoup de morue, énormément de morue, mais très peu de fruits de mer. Mais bref, une destination qui a été vraiment agréable. Ça nous a pas coûté une fortune. On a fait vraiment un gros road trip.
De l'or canadien, en plus.
Canadien.
C'est des frites loops là-bas pour déjeuner le matin.
Oh! Tout loups!
Elle est arrivée un peu en retard, mais il fallait que je la fasse.
Hey, mais t'as plus, j'aimerais qu'on prenne un moment. 17h17. C'est la première fois que tu fais un jeu de mots en onde depuis qu'on est rentré.
Hey!
T'étais pas toi-même.
Je sais.
Tu viens juste de revenir. Là,
oui, je viens juste d'arriver.
Ça fait comme 3 heures que le show est commencé.
Mais j'étais quand même contente.
Oui. Mais dosage, là, c'est ça.
Le frites loops, moi, je trouve ça très bon.
Ça me manquait pas. Hey, on mentionnait dollar canadien. C'est ainsi, si on cherche par tous les moyens d'économiser ou on planifie un petit peu plus, puis on a un chroniqueur, un planificateur financier, Alex Leblon, qui vient nous voir, qui disait qu'elle allait publier un livre qui allait s'appeler « Ta retraite est dans ta cour », en voulant dire que c'est de plus en... En fait, c'est plus avantageux d'acheter un véhicule. Puis ces temps-ci, il y a les incertitudes liées aux tarifs, aux CIOs. On se dit, est-ce que ça va augmenter quand ça va être le temps de changer mon char? Ou encore, la voiture que j'ai là en ce moment, finalement, elle ferait encore l'affaire si j'avais plus de paiement éventuellement. On dirait qu'on est en train de recommencer à être séduit par le principe d'acheter une auto puis de la garder le plus longtemps possible. Puis c'est ça que je voulais qu'on jase ensemble.
Oui.
Toi, je sais que tu es un pro-achat.
Oui, moi, je suis pro-achat. Bien, ça dépend de la personne qu'on est. Moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, souvent, je vais acheter un véhicule puis ça fait longtemps. Ça va faire 7 ans parce que mon véhicule est officiellement à moi pour toujours.
Bravo.
Et merci. Et tu sais, je l'avais acheté en me disant, ce véhicule-là, j'ai l'intention de le garder longtemps aussi. C'est sûr que, tu sais, il y a deux volets dans ma personne. Il y a le gars qui tripe ses voitures. Moi, je suis un passionné de voitures. Mais il y a aussi la personne qui aime ça avoir des petites choses exclusives, mais qui aime ça aussi faire attention à ses finances. T'sais, de l'autre bord, j'aime ça me dire aussi que je ne m'aimerais pas toujours un paiement, puis j'aimerais aussi être capable de me libérer de
tout
ça.
Mais tu connais ça aussi, Sam.
C'est sûr que je connais ça.
Parce que mes parents, en fin de semaine, me disaient « Hey, moi, je peux pas là, prendre un char usagé ou je connais pas ça, faut que j'aille une location absolument parce que comme ça, je suis garantie, j'ai pas de problème. »
Moi, c'est pour ça que depuis plusieurs années, j'avais des autos neuves à peu près aux 3-4 ans.
Ouais.
Parce que, bon, la location, ça me rassurait. Puis là, j'ai regardé mes finances, je fais « C'est pas avantageux pour moi, mais pas en tout. » Fait que là, pour la première fois depuis mes autos usagées à l'époque, j'ai décidé d'acheter mon nouveau véhicule en me disant, je veux le garder longtemps.
C'est qu'il y a beaucoup de marketing qui a été fait là-dessus aussi. Puis tu sais, c'est parfait parce que tu es un gars de marketing aussi.
Oui.
Tu sais, les concessions, les constructeurs automobiles ont martelé la paix d'esprit. C'est ça, la location d'auto. C'est la paix d'esprit. Fait que tout le côté anxiogène de s'il y a des réparations, ce matin, je vais voir le garagiste. Puis là, le mécano, il me dit tout le dessous de ton char est rouillé, il faut tout changer au complet.
C'est pas faux.
On s'enlève ça avec ce paiement-là perpétuel.
C'est pas faux, mais c'est parce que tu payes.
Tu payes à long terme. Puis, tu sais, Véro, tu es un exemple assez intéressant. Tu es quelqu'un qui ne roule pas des énormes quantités de kilomètres par année. Tes véhicules, quand tu les redonnes aux concessionnaires, ont très, très peu de kilométrage.
Les autres sont bien contents, là.
Bien, généralement, oui. Puis, tu sais, souvent, on a cette perception-là, hein, tu sais, de se dire une voiture, c'est l'âge qui va l'achever. C'est parce qu'elle est vieille et qu'elle ne sera plus capable de donner des beaux jours. Mais souvent, tout est une question d'entretien. Tu sais, à la base, c'est toujours ça qu'il faut se fier. Puis, c'est toujours là-dessus qu'il faut voir. Et les années ne sont pas garantes nécessairement de l'entretien que tu fait sur un véhicule. Parfois, je préfère des autos qui ont une dizaine d'années, mais qui ont été vraiment bien entretenues, que des voitures qui ont 2-3 années, mais qui ont vécu 3 années de guerre avec quelqu'un qui s'en est vraiment foutu et que le véhicule est en mauvais état. Je trouve que c'est beaucoup plus payant d'avoir un véhicule qui est bien entretenu.
Tu dis bien entretenu, c'est quoi les bons gestes à poser? Outre, mettons, je comprends qu'il y a des entretiens avec le kilométrage, mais j'imagine qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça.
Si on achète un véhicule neuf, moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est que tu sais, il y a un carnet d'entretien qui vient avec le véhicule. Là, il y a plusieurs personnes qui vont vous dire, il y a plein d'affaires là-dedans qui ne sont pas nécessaires. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'aller au concessionnaire. Et tout ça est vrai, là, d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tant que vous gardez vos reçus. Donc, si, exemple, vous voulez faire un changement d'huile sur un véhicule neuf et que vous n'avez pas envie d'aller au concessionnaire pour le faire, vous pouvez aller dans un autre garage le faire tant que vous avez une facture qui prouve la qualité d'huile que vous avez mis dans votre moteur et le filtre qu'on a utilisé également.
Pour respecter la garantie.
Pour respecter la garantie, exactement. Donc, ça, là-dessus, c'est le fun de juste suivre le carnet d'entretien. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes quelqu'un un peu comme tes parents, André, qui disent « Moi, je connais rien de ça », bien, d'acheter un véhicule aussi, ça vient avec un guide d'entretien. Oui, des fois, il y a des affaires qui sont un petit peu abusives, comme par exemple, on va dire « Changer les bougies aux 30 000 km. Bon. 30 000 km, ça commence à être très court pour des bougies. Là. Il y a des bougies qui peuvent faire jusqu'à 100 000 km. On a vu des affaires plus longtemps que ça aussi. Donc, des fois, c'est un petit peu abusif. Mais quand on connaît vraiment pas ça puis qu'on veut être sûr d'avoir la tranquillité d'esprit, dites-vous que les carnets d'entretien sont faits par les fabricants automobiles qui, eux, s'assurent que le véhicule garde sa pleine performance jusqu'à plusieurs dizaines et des centaines de milliers de kilomètres.
Fait que mettons la base, là, si on veut être sûr d'avoir un char qui fonctionne une couple d'années, là, j'imagine les changements d'huile.
Ben oui, c'est sûr.
La base.
On garde la base, on met de l'essence dedans aussi pour qu'il fonctionne.
Et idéalement.
Ou du courant, ça dépend quel genre de véhicule.
Ça, on rit bien, Sam, là, mais j'imagine que c'est pas bon d'attendre que ta tank soit complètement vide avant de la remplir non plus. Là.
Oui, puis non, il y a une époque, c'est vrai que les tanks étaient faits d'une autre matière, puis ça pouvait faire des petits débris dans le fond du réservoir d'essence.
On est ailleurs.
Puis le fameux changement d'huile, parce que pour continuer sur la lignée là, dont tu disais, le changement d'huile, bon oui, évidemment, mais les traitements anti-rouille.
Oh mon Dieu, ça, je me pose la question. Tu fais ça dès le départ, t'es fait tout le temps.
Parce
maudit que ça fait pas propre, en
nous,
plus.
Nous, on a deux voitures, là, puis on a une qui est terminée de payer, là, un RAV4, parce qu'on a acheté ça, puis tout le monde nous avait dit...
Garde ça!
C'était genre-là, tu vas voir
mais
ça pendant 15 ans.
Garde-le.
Oui, sauf que le problème, c'est que la dernière fois que je suis allé chez le concessionnaire auto, on est obligé de changer des pièces au niveau des freins, puis il y a quelqu'un qui vient me voir me dire on est obligé de casser les link kits parce que son sont figés, ben ils ont soudé dans la roue. Puis là, je fais comment ça, le dessous du char est rouillé à ce point-là alors que je le fais traiter chaque année? Est-ce que ça fait vraiment partie des entretiens qui valent la peine?
C'est une excellente question. Faut savoir qu'un traitement anti-rouille, puis je vais peut-être faire sourire des gens, mais ça prend quelqu'un qui fait vraiment une belle job d'entretien dessus. Dans le sens que la personne qui va appliquer l'anti-rouille, faut qu'elle sache ce qu'elle fait. Puis là, c'est là qu'on tombe un peu dans le côté un peu plus culturel ou le folklorique de « je connais quelqu'un qui fait des anti-rouilles, c'est probablement votre meilleur contact parce que lui va aller dans ces endroits-là. » Que des garages qui font des anti-rouilles très rapidement vont peut-être pas faire nécessairement. Okay. L'anti-rouille fonctionne où est-ce qu'il est appliqué? Fait que s'il n'y en a pas sur Télinkit, ben c'est sûr que la rouille va se développer quand
même. S'il est appliqué déjà sa rouille, il est trop tard aussi.
Il est trop tard. Okay. Le mal est fait. Ça peut ralentir selon le produit qu'on va choisir. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'anti-rouille, pour moi, est un outil qui fonctionne bien.
Mais tu le fais dès le départ, par exemple.
Tu le fais
parce que sinon,
t'es
un peu...
Ah ouais. Est-ce que... Ben, à vrai dire, je vais reprendre ça. Oui, tu devrais le faire depuis le départ parce que le véhicule est flambant neuf, donc sa carrosserie est protégée. Mais tu pourrais avoir un véhicule qui a quelques années et que tu pourrais commencer à faire des traitements anti-rouille
dessus.
Année? Moi, je conseille le chaque année parce que tant qu'elle en met, on va en mettre. Au Québec, les hivers sont difficiles. On trouve ça pas évident non plus avec le sel et les résidus qu'on va avoir sur la route. Moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'enlever l'humidité. C'est ça qui crée la rouille. Puis souvent, l'humidité va rentrer dans les parois du véhicule. C'est là qu'on va avoir le mix entre le sel et l'eau qui va se créer, qui va amener cette espèce de corrosion-là. Et la corrosion est une cause primaire là, des décès des véhicules au Québec. Là, le fait que les véhicules rouillent, c'est pour ça qu'on les voit disparaître. C'est pas nécessairement à cause que la mécanique est plus bonne. Puis je pense que d'un traitement anti-rouille, ça fait vraiment une bonne différence sur un véhicule.
À un moment donné, on se faisait dire qu'il y avait une saison en particulier pour faire les traitements d'anti-rouille. Printemps, automne, je m'en souviens plus.
Véhicule propre et sec. Gardez ça en tête. Si votre voiture elle est sèche et qu'elle est propre, vous pouvez faire un traitement anti-rouille. La température en tant que telle ne changera pas grand-chose. Si vous y allez dans une période où est-ce qu'il pleut à Sio dehors, votre véhicule est sale, vous allez traiter par-dessus un bobo. C'est comme mettre un plaster sur un bobo qu'on n'a pas désinfecté. Ça ne marchera pas vraiment
bien. L'hiver, c'est pas idéal non plus.
Toujours mieux de désinfecter en premier. Fait qu'on va laver le véhicule, on va s'assurer qu'il est bien sec, on l'applique. Moi, j'ai parlé avec des gens aussi qui font de la modification de véhicules, des spécialistes. On a des garages à Québec de gens qui sont extrêmement calés dans la modification de vieilles voitures. Et j'ai d'ailleurs une conversation avec un des propriétaires dernièrement et il me dit, moi, je vois une différence majeure entre un véhicule, exemple des années 70, qui a été traité à l'anti-rouille et un véhicule qui ne l'a pas été. Lui, il en voit une énormément. Okay. Est-ce que l'anti-rouille s'est dit qu'il n'y aura aucune trace de rouille sur votre véhicule?
Pas oubliez
ça. Là. Les ailes sont à risque de rouiller parce que c'est des morceaux qui sont exposés à tous les résidus qu'on peut avoir. Les dessus aussi de votre pare-brise, ça, c'est des endroits qui sont exposés à avoir des roches, des choses comme ça. L'anti-rouille ne va pas là. L'anti-rouille va aller vraiment guérir la structure du véhicule, le châssis de votre voiture. C'est là qu'on va traiter le plus possible. Fait que, oui, il va y avoir de la rouille apparente après quelques années qui pourrait arriver sur votre véhicule. Ça, c'est pas un remède miracle, mais c'est un remède qui garde votre véhicule sain et sécuritaire.
Tu parles du pare-brise puis du top de hoodie de char puis tout là. Je sais pas combien de fois je me suis fait proposer les pare-pierres, c'est comme ça qu'on appelle ça, les espèces de couches protectrices, c'est ça. Puis là, on avait déjà même jasé ensemble, parce que je savais plus quoi faire, si je savais plus ce qu'il fallait que je prenne pas. Tout est important quand tu te le vends.
Oui.
Ça vaut-tu vraiment la peine quand tu veux garder ton véhicule à long terme, étant donné justement cette fameuse rouille-là,
ou c'est un peu un attrape-niveau? Catégorique, oui, ça vaut
la
peine.
Parce que c'est là que ça te chip en premier.
Vraiment.
La manière dont il est collé, là, c'est l'endroit où les petites roches arrivent. Puis moi, j'ai regretté sur un ancien véhicule de ne pas l'avoir pris parce que la première chip, qui habituellement arrive dans les deux premières semaines, a fait mal.
Oui, elle fait mal.
C'est ce qu'ils appellent les têtes d'aiguille aussi, je ne me trompe pas. Là, les petits trous de rien du tout. Puis là, la rouille, finalement, agit plus par en dessous,
Exactement. Puis le fameux pare-pierre, il y en a plusieurs types. Tu sais, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans les début 2000, on mettait des espèces de gros pare-pierres noirs en plastique qu'on collait sur le dessus.
Ouais.
Ça modifiait le style du véhicule pas mal, mettons. C'était pas pour tous les goûts, mais maintenant.
Il retroussait un peu.
Ben, il retroussait un peu.
Que la roche passe au-dessus du
c'est ça. Plus ça revolait dans le pare-brise de l'autre en arrière.
Oui, c'est ça.
Mais maintenant, on met un peu des papiers cellophane, si vous voulez, un peu comme un plastique. Ça s'appelle un 3M. C'est la marque 3M qui produit un des bons. Et c'est un appliqué qu'on va mettre sur des parties névralgiques, comme par exemple sur le dessus du pare-brise, sur le devant du capot. On pourrait la mettre sur le bumper. Vous pourriez faire à grandeur votre char, si vous le voulez.
Wrapper en 3M,
si vous voulez. Comme ça, il y a comme une espèce de petite couche de protection par-dessus. Et ça va faire en sorte que ça ne va pas empêcher les pocs. Donc, exemple, vous avez une roche qui arrive sur votre voiture. Ça se peut que le capot, il plie parce qu'il y a l'impact de la roche qui va arriver activer. Mais si vous avez un problème, la peinture ne lèvera pas. Ouais. Et quand on sait que la peinture et la qualité des peintures a diminué fortement dans l'industrie généralement, ben là, ça peut valoir la peine de mettre ce genre d'outils-là pour protéger notre peinture. C'est comme une protection qu'on ajoute. On pourrait chialer les fabricants qui mettent des peintures de mauvaise qualité.
Aussi.
Mais ça, malheureusement, on n'aura pas vraiment le contrôle là-dessus. Je le fais dans tous mes articles. Inquiétez-vous pas, je suis là pour vous autres. Mais ça ne change pas tout de suite. Ça prend du temps. Là. Fait que un 3M, pour moi, c'est vraiment une bonne valeur pour garder un véhicule longtemps.
On est avec Sam Tremblay-Michaud, qui est chroniqueur automobile. On parle de comment garder un véhicule longtemps. Les garanties prolongées, ça vaut-tu la peine? Mm. Il y a beaucoup de 5 ans, 100 000 kilos maintenant, de plus en plus, mais on nous offre plus longtemps. Là.
C'est toujours une question qui est difficile à répondre parce que je sais qu'il va y avoir deux écoles dès que je vais dire ma réponse. Il va y avoir les gens qui travaillent dans le domaine de la voiture qui vont me dire, ben oui, ça vaut la peine, c'est des choses qui sont intéressantes. Il faut savoir que c'est très payant également pour les compagnies d'offrir des garanties prolongées. Moi, je vais y aller très catégoriquement en vous disant que ça ne vaut pas la peine de le faire. RPM, d'ailleurs, c'est le média pour qui je travaille, ne recommande pas les garanties prolongées. Ce n'est pas un produit que nous, on recommande. Pour la simple et unique raison qu'il y a eu beaucoup trop d'histoires dans le passé et même encore aujourd'hui de gens qui ont pris des garanties prolongées et qui n'ont pas été couverts pour le bobo qu'il y avait sur leur véhicule.
Les espèces de petits caractères
qui
ont en
dessous. Les
petits
caractères sont de plus en plus compliqués. Moi, je trouve que la formule est intéressante, mais si on est capable d'appliquer une vraie garantie prolongée sur un véhicule, et ce n'est pas ça qu'on voit actuellement sur le marché. Donc, pour moi, une garantie prolongée, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas ce qui va vous faire sauver à long terme sur votre véhicule. Moi, je vous propose toujours de payer le plus rapidement possible votre voiture, de vous enlever ce paiement-là. Puis c'est drôle, mais si on s'enlève un 8, 9, 700 000 $ par mois, si jamais il y a une réparation à faire sur votre voiture, là, vous allez l'avoir l'argent pour le faire.
Effectivement.
Donc, pour moi, le paiement, d'arriver plus vite à la fin du paiement, ça vaut plus cher que d'essayer de rallonger une garantie qui ne couvrira peut-être pas vos besoins.
On s'est déjà fait dire à une certaine époque, la première année de production d'un nouveau modèle, achète-les pas.
C'est
sans dire que c'est nécessairement un citron, ça se peut que ce soit un modèle qu'on a fait des essais dessus, mais les autres, on va les améliorer. C'est vrai encore?
Et plus que jamais. Je vous dirais que présentement, et puis quand je dis plus que jamais, je parle vraiment depuis quelques années, on voit la transformation énergétique qui se passe dans le milieu de l'automobile. Ouais. On a des nouvelles mécaniques, on a des nouvelles batteries, des moteurs électriques, on a des voitures hybrides rechargeables qui sont remplies de quincailleries. On a une batterie, on a un moteur électrique, un moteur à essence, une transmission CVT. Là, l'autre n'a pas mis celui, il a mis une transmission régulière. Là, on a deux moteurs. Plus, ça devient vraiment complexe en termes de mécanique. Et nous, on est très prudents, d'ailleurs, chez RPM là-dessus. On va vous dire tout le temps d'attendre un peu. Ça vaut toujours la peine d'attendre. Il y en a des gens qui sont plus courageux, qui y vont, qui font. C'est correct. Moi, je respecte ça. Ça en prend des gens qui vont faire les tests pour nous. Merci de l'essayer, tu sais. Mais c'est vrai qu'un produit doit faire ses preuves. Et, tu sais, un an ou deux, ça ne fera pas une grande différence. Avant de dire qu'on recommande un véhicule, il faut vraiment qu'on ait un historique sur les rappels qui sont faits aussi. Tu sais, des fois, on voit des véhicules qui sortent. Puis ils sont rappelés. Là, on a des champions des rappels comme Ford cette année qui doit être rendu à son 50e rappel au Canada. C'est épouvantable la quantité de rappels qu'on fait sur des véhicules. Si le véhicule n'était pas prêt de sortir de l'usine, sortez-le pas. Finissez de faire la recherche et développement, puis après ça, vous m'appellerez pour me le vendre. Mais d'ici ce temps-là, je trouve que ça fait partie de l'équation qu'il faut qu'on calcule dans l'achat. Et quand on a une année d'un modèle année 1, ben, c'est un risque qu'on prend. On n'a pas d'historique. Je ne peux pas rien vous dire. Quelqu'un, j'ai vu ce véhicule-là, c'est-tu fiable? Je ne sais pas. Ils viennent d'arriver.
On a parlé d'entrée de jeu de la fameuse chronique d'Alex Leblond, ta retraite est dans ton drive. Oui, Alex m'a fait changer de char. D'ailleurs, on s'est consulté, Sam, pour ça. Mon char, c'est un 2013, OK?
Oui.
C'est quoi l'espérance de vie réelle d'une auto aujourd'hui? Puis ça dépend de quoi? C'est-tu le kilométrage? C'est-tu l'entretien? C'est-tu le nombre d'années? On dirait que ça devient dur de savoir quand est-ce qu'il va me péter dans les mains. Il faudrait que je prévoie un changement, mettons. Là.
C'est le fun parce qu'il n'y a pas de chiffre magique. Je peux pas te dire la moyenne, c'est 15 ans. Il y a des voitures. Moi, j'ai acheté un véhicule d'été l'année passée. C'est un véhicule de 2001. Le char a 24 ans. Il sort du concessionnaire. Là. Je pourrais manger sur les parois en arrière. Il n'y a pas de rouille sur ce véhicule-là. Il est propre. Je l'aime. Je suis content. T'sais, c'est quelque chose de le fun à acheter, puis c'est un véhicule qui a 25 ans aujourd'hui, tu sais, fait que ça n'a pas nécessairement rapport avec l'âge du véhicule. Ça, j'en reviens beaucoup là-dessus. Le kilométrage, des fois, on voit des voitures à vendre, ils ont 200 000 kilos, c'est fini. Mais non, mais ça dépend, c'est qui l'avait.
Ça a été un 200 000 kilos super bien entretenu versus un 60 000 kilos que les entretiens n'ont pas été faits, puis la personne s'est sacrée de son char, puis c'est une vidange roulante.
Je cours sur le 200 000 km parce que je me dis, si j'ai un historique, je suis capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé, je vois les protections 3M, je vois que la personne elle a fait ses traitements anti-rouille, je sais que c'est de la grande route, par exemple, la personne a fait beaucoup de grande route. La grande route, ça use pas vraiment un moteur, là. On fait juste travailler le moteur tranquillement. C'est souvent quand on est dans les villes, dans les nids de poules, quand on fait des stop and go, on part au stop, on décolle, on arrête, ça, c'est plus dur, surtout la mécanique, tu sais. Tandis qu'un véhicule qui a beaucoup de kilométrage, c'est pas nécessairement garant de mauvaise qualité. Chose qu'on peut voir, par contre, c'est que le parc automobile canadien augmente en âge de plus en plus. Et là, on voit que les gens conservent plus longtemps leur véhicule également. Ça, c'était vrai il y a quelques mois. J'imagine qu'à la fin de l'année, on va encore avoir des statistiques plus élevées, autour de 12 ans à peu près d'âge moyen dans le parc automobile canadien, ce qui est jamais vu. Là. On avait des parcs automobiles autour de 7 ans habituellement. Donc là, on augmente beaucoup d'année en année sur le parc automobile. Puis ça, bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens gardent leur voiture, mais qu'aussi les voitures font encore le travail. Mm-hmm. Maintenant, on a des statistiques, on peut faire des corrélations puis se dire, bon, bien là, si les voitures sont de plus en plus vieilles, ça veut dire qu'ils roulent encore aussi.
J'aurais pensé l'inverse, honnêtement. T'sais, justement, vu les changements de climat vraiment importants qu'on a ici, que les gens auraient eu tendance à changer les voitures plus régulièrement. Fait que ça veut dire que les constructeurs se sont adaptés aussi au fil des années pour nous garantir des voitures qui toffent plus longtemps, même si on a l'hiver, le sel et tout ça.
Puis plus sécuritaire aussi. Tu sais, je sais qu'il y a des bons vieux puristes qui vont me dire il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux V8 GM. Là. Moi, ça marche bien, cette machine-là. Il est carré, il est en métal. Mm-hmm. Faire un impact là-dedans, c'est pas mal moins drôle. Par contre, tu sais, c'est des véhicules aussi qui, en termes de sécurité, on a évolué beaucoup le domaine automobile. Et la durabilité est là. Maintenant, c'est vrai qu'on a tourné les coins ronds sur plein de choses. Je parlais de la peinture, justement. Donc, on peut se protéger un petit peu grâce à certains produits comme la protection 3M. On peut aussi faire des nanocéramiques, des produits de traitement par-dessus qui vont ajouter comme une couche. Tu sais, vos téléphones intelligents, on met des fois des fausses vitres là, dans un genre de gelée. Là. C'est un peu le même principe avec un nanocéramique. On fait ça à la grandeur du véhicule. Fait, il y a des outils pour nous aider à les entretenir, mais les véhicules d'aujourd'hui, si on les aime un peu, peuvent nous donner longtemps des très, très loyaux services.
Des fois, je veux finir avec ça, on a l'impression que quand on a besoin de changement, on va dire « Ah, oh, mon véhicule, il est dû pour être changé ». Qu'est-ce que tu considères comme étant la véritable fin de vie d'un véhicule?
Moi, c'est la rouille. Vraiment, là, les voitures qui sont pourries. Là,
quand pour faire les ailes, puis le bas des
ailes,
portes.
Les ailes, c'est de l'esthétique. Mais quand, justement, des bas de portes, ça fait partie de la structure du véhicule. Ça va faire partie d'une composante de sécurité. On peut voir des châssis également qui sont percés. On a des planchers de véhicules qui sont percés également au Québec. On en voit sur les routes. Tu sais, moi, j'aime mieux avoir un véhicule que le moteur est sauté, mais que la carrosserie est propre, parce qu'un moteur, ça change. Mais une carrosserie, il est trop tard. Ça coûte beaucoup trop cher.
Quand t'as un pierre à feu, là.
Ouais, non, mais tu sais, là, c'est assez.
C'est ça, là, ça suffit.
Là, ça suffit.
S'il n'était pas décapotable, il est décapotable.
Là, c'est assez.
Pour ça, des questions. Là.
Si vous pouvez prendre votre breuvage au service au volant sans baisser la fenêtre par le trou de la porte.
C'est un signe.
C'est que là, vous êtes dû pour changer. Mais la rouille, moi, pour moi, c'est l'élément le plus important à surveiller parce que c'est votre sécurité, littéralement. S'il y a un impact, votre véhicule n'est plus dans ses composantes d'origine. Il n'est plus capable de recevoir le choc comme il l'a reçu auparavant. Tu sais, des lignes kits rouillées, ça change. Ça veut dire que ta structure est rendue. Si tu l'as bien fait traiter, ton RAV4, Nathan, il n'y a pas de problème. Mais de la rouille structurelle, ça devient dangereux. Ça, pour moi, c'est le bye-bye signe.
Merci beaucoup pour le cours 101. Je veux garder mon char longtemps. Il y avait un petit peu d'égoïsme là-dedans, mais je suis pas mal persuadée que je ne suis pas la seule dans cette situation-là ces temps-ci. Vous pouvez le suivre sur les médias sociaux. Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Il répond même à vos questions. C'est toujours le fun de te recevoir en studio. Ta passion est contagieuse.
C'est le fun, vraiment.
Vous écoutez Gravel dans le retour. On s'arrête quelques instants et on revient.
Gravel.